Chapitre 13, les convives. Goranflot ne fut pas long à donner des ordres. Si le digne prieur était bien sur la ligne ascendante, comme il le prétendait, c'était surtout en ce qui concernait les détails d'un repas ou les progrès de la science culinaire. Don Modeste manda frère Eusèbe, qui comparut, non pas devant son chef, mais devant son juge. À la manière dont il avait été requis, il avait au reste deviné qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire à son endroit, chez le révérend prieur. « Frère Eusèbe, dit Goranflot d'une voix sévère, écoutez ce que va vous dire monsieur Robert Briquet, mon ami. Vous vous négligez, à ce qu'il paraît. J'ai ouï parler d'incorrection grave dans votre dernière bisque, et d'une fatale négligence à propos du croquant de vos oreilles. Prenez garde, frère Eusèbe, prenez garde. Un seul pas fait dans la mauvaise voie entraîne tout le corps. » Le moine rougit et pâlit tour à tour et balbutia une excuse qui ne fut point admise. « Assez, dit Goranflot. » Frère Eusèbe se tut. « Qu'avez-vous aujourd'hui pour déjeuner ?» demanda le révérend prieur. « J'aurai des œufs brouillés aux crêtes de coq. Après, des champignons farcis. Après, des écrevisses au vin de Madère. Menu-pied que tout cela, menu-pied, quelque chose qui fasse un fond, voyons, dites vite. J'aurai en outre un jambon aux pistaches. Peu, fit Chicot. Pardon, interrompit timidement Eusèbe, il est cuit dans du vin de Xérès sec, je l'ai piqué d'un bœuf attendri, dans une marinade d'huile d'Aix, ce qui fait qu'avec le gras du bœuf, on mange le maigre du jambon, et avec le gras du jambon, le maigre du bœuf. » Goranflot hasarda vers Chicot un regard accompagné d'un geste d'approbation. « Bien cela, n'est-ce pas, dit-il, monsieur Robert ?» Chicot fit un geste de demi-satisfaction. « Et après, demanda Goranflot, qu'avez-vous encore ? On peut vous accommoder une anguille à la minute ?»« Oh, foin de l'anguille, dit Chicot. » »« Je crois, monsieur Briquet, reprit frère Eusèbe, en s'enhardissant peu à peu, je crois que vous pouvez goûter de mes anguilles sans trop vous en repentir. » Qu'ont-elles donc de rares, vos anguilles? Je les nourris d'une façon particulière. Oh. Oui, ajouta Goranflot, il paraît que les Romains, ou les Grecs, je ne sais plus trop, un peuple d'Italie, enfin, nourrissaient les lamproies, comme fait Eusèbe. Il a lu cela dans un auteur ancien, nommé Suétone, lequel a écrit sur la cuisine. Comment, frère Eusèbe, s'écria Chicot, vous donnez des hommes à manger à vos anguilles? Non, monsieur, je hache menu les intestins et les foies des volailles et du gibier, j'y ajoute un peu de viande de... Je fais de tout cela une espèce de chair à saucisse que je jette à mes anguilles, qui, dans l'eau douce et renouvelée sur un gravier fin, deviennent grasses en un mois, et, tout en engraissant, allongent considérablement. Celles que j'offrirai au seigneur prieur aujourd'hui, par exemple, pèsent 9 livres. « C'est un serpent, dit Chicot. Elle avalait d'une bouchée un poulet de 6 jours. »« Comment l'avez-vous accommodé ?» demanda Chicot. « Oui, comment l'avez-vous accommodé ?» répéta le prieur. « Dépouillé, rissolé, passé au beurre d'anchois, roulé dans une fine chapelure, puis remise sur le grill pendant 10 secondes. Après quoi, j'aurai l'honneur de vous la servir, baignant dans une sauce épicée de piment et d'ail. » « Mais la sauce ?»« Oui, la sauce elle-même. Simple sauce d'huile d'Aix, battue avec des citrons et de la moutarde. »« Parfait, dit Chicot. » Frère Eusèbe respira. « Maintenant, il manque les confiseries, fit observer judicieusement Goranflot. J'inventerai quelques mets capables d'agréer au seigneur prieur. » C'est bien, je m'en rapporte à vous, dit Goranflot. Montrez-vous digne de ma confiance. Eusèbe salua. Puis-je donc me retirer? Demanda-t-il. Le prieur consulta Chicot. Qu'il se retire, dit Chicot. Retirez-vous et envoyez-moi le frère sommelier. Eusèbe salua et sortit. Le frère sommelier succéda au frère Eusèbe et reçut des ordres non moins précis et non moins détaillés. 10 minutes après, devant la table couverte d'une fine nappe de lin, les deux convives, ensevelis dans 2 larges fauteuils tout garnis de coussins, s'opposaient l'un à l'autre, fourchettes et couteaux en main, comme 2 duellistes. La table, suffisamment grande pour 6 personnes, était pourtant remplie, tant le sommelier avait accumulé de bouteilles de formes et d'étiquettes différentes. Eusèbe, fidèle au programme, venait d'envoyer les œufs brouillés, des écrevisses et des champignons, qui parfumaient l'air d'une moelleuse vapeur de truffe, de beurre frais, comme la crème de thym et de vin de Madère. Chicot attaqua en homme affamé. Le prieur, au contraire, en homme qui se défie de lui-même, de son cuisinier et de son convive. Mais, après quelques minutes, ce fut Grand Flot qui dévora, tandis que Chicot observait. On commença par le vin du Rhin, puis l'on passa au Bourgogne de 1550. On fit une excursion dans un ermitage dont on ignorait la date. On effleura le Saint-Péret. Enfin, l'on passa au vin de la pénitente. « Qu'en dites-vous ? » demanda Grand Flot, après en avoir goûté 3 fois sans oser se prononcer. « Velouté, mais léger, fit Chicot. Et comment s'appelle votre pénitente ?»« Oh, je ne la connais pas, moi. »« Oui, vous ne savez pas son nom ?»« Non, ma foi, nous traitons par ambassadeur. » Chicot fit une pause pendant laquelle il ferma doucement les yeux pour savourer une gorgée de vin qu'il retenait dans sa bouche avant de l'avaler, mais en réalité pour réfléchir. « Ainsi donc, dit-il au bout de 5 minutes, c'est en face d'un général d'armée que j'ai l'honneur de dîner. Oh, mon Dieu, oui. Comment, vous soupirez en disant cela? Ah, oh, c'est bien fatigant, allez. Sans doute, mais c'est honorable, mais c'est beau. » Superbe, seulement je n'ai plus de silence aux offices, et avant-hier j'ai été obligé de supprimer un plat au souper. Supprimer un plat, et pourquoi donc? Parce que plusieurs de mes meilleurs soldats, je dois l'avouer, ont eu l'audace de trouver insuffisant le plat de résiné de Bourgogne qu'on donne en 3e le vendredi. Voyez-vous cela, insuffisant? Quelle raison donnait-il à cette insuffisance? Ils prétendaient qu'ils avaient encore faim et réclamaient quelques chairs maigres, comme sarcelles, homards ou poissons de haut goût. Comprenez-vous, c'est dévorant. Dame, s'ils font des exercices, ce n'est point étonnant qu'ils aient faim, ces moines. Où serait donc le mérite, dit frère Modeste, bien manger et bien travailler, c'est ce que peut faire tout le monde. Que diable, il faut savoir offrir ses privations au Seigneur. Continua le digne abbé en empilant un quartier de jambon et de bœuf sur une bouchée déjà respectable de galantine, dont frère Eusèbe n'avait point parlé, le mets étant trop simple, non pour être servi, mais pour figurer sur la carte. « Buvez, modeste buvez, dit Chicot, vous allez vous étrangler, mon cher ami, vous devenez cramoisi. » C'est d'indignation, répliqua le prieur, en vidant son verre qui contenait une demi-pinte. Chicot le laissa faire, puis, lorsque Grand Flot eut reposé son verre sur la table, voyons, dit Chicot, achevons votre histoire, elle m'intéresse vivement, parole d'honneur. Vous leur avez donc retiré un plat parce qu'ils trouvaient qu'ils n'avaient pas assez à manger. Tout juste. C'est ingénieux. Aussi, la punition a-t-elle fait un rude effet. J'ai cru qu'on allait se révolter. Les yeux brillaient, les dents claquaient. Ils avaient faim, dit Chicot, ventre de biche, c'est bien naturel. Ils avaient faim, n'est-ce pas? Sans doute. Vous le dites, vous le croyez? J'en suis sûr. Eh bien, j'ai remarqué ce soir-là un fait bizarre et que je recommanderais à l'analyse de la science. J'ai donc appelé frère Borromée en le chargeant de mes instructions touchant cette privation d'un plat à laquelle j'ai ajouté, voyant la rébellion, privation de vin. Enfin, demanda Chicot, Enfin, pour couronner l'œuvre, j'ai commandé un nouvel exercice, voulant terrasser l'hydre de la révolte. Les psaumes disent cela, vous savez, attendez donc, cabis poriabis diagonem, vous ne connaissez que cela, mordieu. Procul cabis draconem, fit Chico en versant à boire au prieur. Draconem, c'est cela, bravo. À propos de dragon, mangez donc de cette anguille, elle emporte la bouche, c'est merveilleux. Merci, je ne puis plus respirer, mais racontez, racontez. Quoi? Mais votre fait bizarre. Lequel, je ne m'en souviens plus. Celui que vous vouliez recommander au savant. Ah oui, j'y suis. Très bien. J'écoute. Je prescris donc un exercice pour le soir. Je m'attendais à voir mes drôles exténués, hâves, suants. J'avais préparé un sermon assez beau sur ce texte, celui qui mange mon pain. Pain sec, dit Chico. Précisément, pain sec, s'écria Gorenflot, en dilatant par un rire cyclopéen ses robustes mâchoires. J'aurais joué sur le moré d'avance, j'en avais ri tout seul, une heure, quand je me trouve au milieu de la cour, en présence d'une troupe de gaillards animés, nerveux, bondissants comme des sauterelles. Ceci est l'illusion sur laquelle je veux consulter les savants. Voyons l'illusion, et sentant le vin d'une lieue. Le vin, frère Boromé, vous aurez donc trahi? Oh, je suis sûr de Boromé, s'écria Gorenflot, c'est l'obéissance passive en personne. Je dirais à frère Boromé de se brûler à petit feu qu'il irait à l'instant même chercher le gril et chaufferait les fagots. « Ce que c'est que d'être mauvais physionomiste, » dit Chico en se grattant le nez, « il ne me fait pas du tout cet effet-là à moi. »« C'est possible, mais moi, je connais mon Boromé, vois-tu, comme je te connais, mon cher Chico, » dit Don Modeste qui devenait tendre en devenant ivre. « Et tu dis qu'il sentait le vin ?»« Boromé ? Non, témoine !» Comme des futailles, sans compter qu'ils étaient rouges comme des écrevisses. J'en ai fait l'observation à Boromé. Bravo. Ah, c'est que je ne m'endors pas, moi. Et qu'a-t-il répondu? Attends, c'était fort subtil. Je le crois. Il a répondu que l'appétence très vive produit des effets pareils à ceux de la satisfaction. Oh, Fichico, en effet, c'est fort subtil, comme tu dis, ventre de biche, c'est un homme très fort que ton Boromé. Je ne m'étonne plus s'il a le nez et les lèvres si minces. Et cela t'a convaincu? Oh, tout à fait, et tu vas être convaincu toi-même. Mais voyons, approche-toi un peu de moi, car je ne me remue plus sans étourdissement. Chico s'approcha. Gorenflot fit de sa large main un cornet acoustique qu'il appliqua sur l'oreille de Chico. « Eh bien ?» demanda Chico. « Attends donc, je te résume. Vous souvenez-vous du temps où nous étions jeunes, Chico ?»« Je m'en souviens. Du temps où le sang brûlait, où les désirs immodestes... »« Prieur, prieur !» fit le chaste Chico. Mais c'est Boromé qui parle, et je maintiens qu'il a raison. L'appétence ne produisait-elle point parfois des illusions de la réalité? Chico se mit à rire si violemment que la table, avec toutes les bouteilles, trembla comme un plancher de navire. Bien, bien, dit-il, je vais me mettre à l'école de frère Boromé, et quand il m'aura bien pénétré de cette théorie, je vous demanderai une grâce, mon révérend. « Elle vous sera accordée, Chico, comme tout ce que vous demanderez à votre ami. Maintenant, dites, quelle est votre grâce ?»«
Vous me chargerez de l'économat du prieuré pendant 8 jours seulement. »«
Et que ferez-vous pendant ces 8 jours ?»«
Je nourrirai frère Boromé de ses théories. Je lui servirai un plat, un verre vide, en lui disant, « Désirez de toute votre force, de votre faim et de votre soif, une dinde aux champignons et une bouteille de chambertin. Mais prenez garde de vous griser avec ce chambertin. Prenez garde d'avoir une indigestion de cette dinde, cher philosophe. »
Ainsi, dit Gorenflot, tu ne crois pas à l'appétence, païen?
Oh, c'est bien, je crois ce que je crois, mais brisons sur les théories. Soit, dit Gorenflot, brisons et parlons un peu de la réalité. Et Gorenflot se versa un verre de vin. Ah, ce bon temps dont tu parlais tout à l'heure, Chicot, dit-il, à nos soupers de la corne d'abondance. Ah, bravo, je croyais que tu avais oublié tout cela, révérend. Profane, tout cela dort sous la majesté de ma position, mais morbleu, je suis toujours le même. Et Gorenflot se mit à entonner sa chanson favorite, malgré les chutes de Chicot. Quand l'ânon est destaché, quand le vin est débouché, l'ânon dresse son oreille, le vin sort de la bouteille. Mais rien n'est si éventé que le moine en pleine treille, mais rien n'est si desbatté que le moine en liberté. Mais chut donc, malheureux, dit Chicot, si frère Borromée entrait, il croirait qu'il y a 8 jours que vous n'avez ni bu ni mangé. Oh, si frère Borromée entrait, il chanterait avec nous. Je ne crois pas. Et moi, je te dis de te taire et de répondre à mes questions. Parle alors. Tu ne m'en donnes pas le temps, ivrogne. Oh, ivrogne, moi! Voyons, il résulte de l'exercice des armes que ton couvent est changé en une véritable caserne. Oui, mon ami, c'est le mot. Véritable caserne. Caserne véritable. Jeudi dernier. Est-ce jeudi? Oui, c'est jeudi. Attends donc, je ne sais plus si c'est jeudi. Jeudi ou vendredi, la date n'y fait rien. C'est juste le fait, voilà tout, n'est-ce pas? Eh bien, jeudi ou vendredi, dans le corridor, j'ai trouvé 2 novices qui se battaient au sabre, avec 2 seconds qui se préparaient, de leur côté, à en découdre. Et qu'as-tu fait? Oh, je me suis fait apporter un fouet pour rosser les novices, qui se sont enfuis, mais Borromée, Borromée, encore Borromée, toujours. Mais Borromée? Oh, Borromée les a rattrapés et vous les a fustigés de telle façon qu'ils sont encore au lit, les malheureux. Je demande à voir leurs épaules pour apprécier la vigueur du bras de frère Borromée, fit Chicot. Nous déranger pour voir d'autres épaules que des épaules de mouton, jamais. Mangez donc de cette pâte d'abricot. Non pas morbleu, j'étoufferai. Ah, buvez alors. Non plus, j'ai à marcher, moi. Et moi, crois-tu donc que je n'ai point à marcher? Et cependant, je bois. Oh, vous, c'est différent. Et puis, pour citer les commandements, il vous faut des poumons. Alors, un verre, rien qu'un verre de cette liqueur digestive dont Eusèbe a seul le secret. D'accord. Elle est si efficace qu'eût-on dîné de façon gloutonne, on se trouverait nécessairement avoir faim 2 heures après son dîner. Quelle recette pour les pauvres! Savez-vous que si j'étais roi, je ferais trancher la tête à Eusèbe. Sa liqueur est capable d'affamer un royaume. Oh, qu'est-ce que cela? C'est l'exercice qui commence, dit Gorenflot. En effet, on venait d'entendre un grand bruit de voix et de ferrailles venant de la cour. Sans le chef, dit Chicot. Oh, voilà des soldats assez mal disciplinés, il me semble. Sans moi, jamais, dit Gorenflot. D'ailleurs, cela ne se peut, comprends-tu, puisque c'est moi qui commande, puisque l'instructeur, c'est moi. Et tiens, la preuve, c'est que j'entends frère Borromée qui vient prendre mes ordres. En effet, au moment même, Borromée entrait, lançant à Chicot un regard oblique et prompt, comme la flèche traîtresse du Parthe. Oh, pensa Chicot, tu as eu tort de me lancer ce regard-là, il t'a trahi. Seigneur prieur, dit Borromée, on n'attend plus que vous pour commencer la visite des armes et des cuirasses. Des cuirasses, oh, se dit tout bas Chicot, un instant, j'en suis, et il se leva précipitamment. Ah, vous assisterez à mes manœuvres, dit Gorenflot, en se soulevant à son tour comme ferait un bloc de marbre qui prendrait des jambes. Votre bras, mon ami, vous allez voir une belle instruction. Le fait est que le prieur est un tacticien profond, dit Borromée, sondant l'imperturbable physionomie de Chicot. Oh, Don Modeste est un homme supérieur en toutes choses, répondit Chicot en s'inclinant. Puis, tout bas à lui-même, oh, murmura-t-il, jouons serré, mon aiglon, ou voilà un Milan qui t'arracherait des plumes.